Le psaume 23, le fameux psaume 23. Un texte, vous serez d'accord, pour le moins classique. Un texte connu, lu et relu, étudié et réétudié. À mon avis, on pourrait aller jusqu'à dire qu'à part peut-être Jean 3,16, il n'y a pas de passage plus célèbre dans toute la Bible que celui-ci. Et on comprend pourquoi d'ailleurs, tellement ces paroles de David sont belles. Mais alors me direz-vous, puisqu'il est si habituel, que raconter de plus aujourd'hui qui n'ait été déjà dit sur le psaume 23 ? Eh bien rien. Rien de plus et rien de mieux sans aucun doute. Mais vous ne m'en voudrez pas, j'avais quand même envie d'en parler encore une fois, en ce début d'année 2018. J'avais quand même envie de reprendre ces quelques versets pour en ressortir une fois de plus les affirmations, les promesses et les vérités essentielles qu'ils contiennent. Des vérités qu'on connaît déjà, bien sûr, mais que peut-être parfois la force de l'habitude risque de nous faire banaliser ou de nous en faire oublier la portée. Aussi, je me dis qu'il est bon, de temps à autre, de les relire et de les réaffirmer, ces vérités. Et c'est donc ce que je me propose de faire avec vous ce matin, en relevant en particulier trois points qui me semblent ressortir de ce psaume. Et je vous invite à démarrer de suite avec le premier point. Le divin berger prend soin de moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves. Un berger est donc des brebis. Qu'est-ce qu'évoque cette image? Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Quel sens fait-elle? Quelle résonance a-t-elle notamment en ce qui concerne votre vision de Dieu et votre relation avec lui? Personnellement, cette image du berger qui inlassablement s'occupe jour après jour de ses brebis me renvoie une idée de douceur et de tendresse, de bienveillance aussi, d'affection, d'amour même. Voilà, à n'en pas douter, les sentiments d'un bon berger envers ses brebis. Et voilà donc, à n'en pas douter, les sentiments de Dieu envers nous. Et cette première vision, pour démarrer le psaume 23, est essentielle, me semble-t-il. Car elle vient d'emblée, avant de dire quoi que ce soit d'autre, détruire la conception si répandue, et peut-être aussi en nous-mêmes, d'un Dieu sévère et intransigeant. Mais un bon berger ne peut pas être sévère ou intransigeant avec ses faibles brebis. Un bon berger ne peut pas leur crier dessus à longueur de temps. Un bon berger ne peut pas leur adresser des reproches incessants parce qu'elles ne sont que des brebis. Trouveriez-vous, vous, si vous assistiez à un tel spectacle, qu'il s'agit là d'un bon berger? Un bon berger ne peut pas non plus abandonner la brebis fatiguée au bord du chemin, ou celle trop chétive qui n'arrive pas à suivre le même rythme que les autres. Trouveriez-vous, vous, si vous assistiez à une telle scène, qu'il s'agit là d'un bon berger? Non, un bon berger ne fait pas cela, et Dieu ne fait pas cela non plus. Et on a besoin, de temps en temps, de se le redire. Mais un bon berger relève, soutient, accompagne, prend patience, et, pourrions-nous dire, fait grâce. Et cette grâce, et j'en viens plus précisément à ces premiers versets du texte, va se manifester surtout et en particulier ici à travers le repos, que ce bon berger va venir offrir à ses brebis. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. C'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves. Ou dans une autre version, il restaure mon âme. Une si belle expression. Les verts pâturages, les eaux paisibles, les forces renouvelées. Voilà ce que donne un bon berger à sa brebis. Et voilà ce que donne Dieu, le divin bon berger, à son enfant. Mais alors, question, de quoi s'agit-il ici? Que signifie ce repos quand on parle de Dieu et quand on parle de nous? Il s'agit peut-être d'un repos du corps que Dieu nous offre, sans doute, mais pas seulement. Il est question ici, je crois, de bien plus, d'un repos du cœur et de l'âme, d'un repos particulier. Et Jésus, dans l'évangile de Matthieu, nous en parle aussi et nous invite à ce repos. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Un repos, on le voit, qui vient en fait en réponse au problème d'un lourd fardeau. Ce lourd fardeau, c'est notre péché. Ce péché qui pèse sur nos épaules depuis Adam et Ève, comme Eric en parlait dimanche dernier. Les prairies verdoyantes et les eaux calmes sont le symbole du vrai repos de Dieu. Ce repos qui nous vient de l'œuvre de la croix, là où Jésus se charge de nos fautes, là où Jésus mérite pour nous et nous offre par pure grâce son salut, nous faisant ainsi, de fait, trouver le repos en nous rendant uniquement dépendants de son œuvre parfaite et accomplie, et non plus de nos propres efforts ou mérites. Ce repos, c'est le cœur de l'Évangile, n'est-ce pas? Cette grâce, unique fondement de la bonne nouvelle que nous croyons et que nous proclamons. Une affirmation centrale. Mais pourtant, cette grâce si centrale, cette grâce si proclamée, cette grâce si simple a priori puisqu'elle est offerte, cette grâce n'est peut-être finalement pas si facile à recevoir ou à vivre. Et je parle ici, bien sûr, de cette grâce que nous saisissons au début de notre route et qu'il est parfois dur d'accepter simplement. Mais je parle aussi, et peut-être même surtout, de la continuité de cette grâce. De cette grâce qui devrait nous accompagner au quotidien dans cette route, dans notre vie de chrétien. Mais qu'on a vite fait de délaisser un peu ou plus. Si on en croit Jerry Bridges, auteur d'un livre qui s'intitule « La grâce de Dieu, c'est pour la vie ». Il est tellement simple pour le croyant de limiter la grâce à son salut et de vouloir ensuite poursuivre sa course portée par ses propres œuvres et ses propres mérites. Loin du repos de la grâce et loin du repos de la dépendance de l'œuvre de Dieu. Et personnellement, je dois avouer que je me sens bien concerné par ça et que c'est une tension pour moi, un combat au quotidien. Qu'il est dur de ne pas laisser nos mérites vouloir reprendre leur place. Qu'il est dur de ne pas laisser nos œuvres vouloir empiéter sur l'œuvre du Christ. Ou qu'il est dur, à contrario, de ne pas laisser nos échecs et nos manquements amenuiser la portée et la pleine réalité de l'œuvre de grâce en nous. Oui, qu'il est dur, en fait, de maintenir la sphère des œuvres qui a aussi, et bien sûr, sa place dans la vie chrétienne, mais de la maintenir disjointe de celle de la grâce et du repos. C'est tellement à contre-courant de nos fonctionnements naturels, de mes fonctionnements naturels en tout cas. Mais par David, dans ce psaume 23, et surtout par Jésus à la croix, cet appel nous est encore lancé à chacun d'entre nous. Au cœur de notre route, apprenons sans cesse à demeurer vraiment dans ce vrai repos de Dieu. Au cœur de notre route, apprenons à accompagner notre divin berger dans les prairies verdoyantes, là où il prendra soin de notre âme, là où il restaurera nos forces, là où il nous imprégnera encore et encore des conséquences de l'œuvre infinie de son Fils. Oui, au cœur de notre agitation et de notre fébrilité naturelle. Accueillons, et accueillons à nouveau si besoin, la douceur de cette promesse. Le divin berger m'offre le vrai repos, que je ne me dérobe pas à ses soins. je poursuis la lecture du psaume, qui continue de décrire l'œuvre de ce tendre berger. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Voilà donc que nous quittons dorénavant les sentiers paisibles pour entrer dans cette vallée où règnent les ténèbres de la mort. Et on le sait, c'est une réalité. Toutes les brebis que nous sommes passent ou passeront un jour par ces chemins arides, ces sentiers rocailleux, ces routes désertiques, bien loin en tout cas des prairies verdoyantes, bien loin peut-être de ces lieux où nous ressentons et où nous vivons ce repos de Dieu. Mais si Dieu ne promet jamais de nous épargner ces vallées, il nous promet par contre une autre chose, c'est qu'au plus profond d'entre elles, il sera encore là. C'est qu'au plus sombre des ténèbres de la mort, aux pires périodes de nos vies, là où la grâce de Dieu semble loin, là où le repos ne paraît plus qu'une illusion, là où la souffrance, quelle qu'elle soit, morale, physique, spirituelle, prend toute la place, là, et tout particulièrement là, le tendre berger est encore auprès de sa brebis. Qu'elle le sache ou pas, qu'elle en soit consciente ou pas. Et il y est, en accomplissant peut-être deux actions en particulier. C'est ce que semble dire ce texte. Dans cette sombre vallée, il nous conduit, ta houlette me conduit, et il nous protège, ton bâton me protège. Il nous conduit tout d'abord, au travers de sa parole, il nous enseigne et il nous encourage. Il nous apprend à tenir ferme dans l'épreuve. Il vient nous montrer que ceux qui nous ont précédés ont traversé la même vallée que nous et qu'il les a déjà accompagnés jusqu'au bout. Et il vient même nous promettre que cette vallée prendra fin dans cette vie ou dans l'autre et qu'il effacera lui-même les larmes de nos yeux. Au moyen de son esprit, appelé, comme l'a dit Matthieu, le consolateur, il vient nous consoler au cœur de cette vallée. Il vient nous convaincre que nous sommes, quoi qu'il arrive, ses enfants et que nous lui appartenons. Il vient nous fortifier, demeurer en nous. Et il vient produire dans nos cœurs le vouloir et le faire qui sont si nécessaires pour avancer un pas de plus. Par le biais de l'Église, de nos frères et sœurs, qui par amour fraternel partagent nos épreuves et marchent à nos côtés, il vient encore continuer à nous accompagner. Oui, par tous les moyens et en toute occasion, Dieu est auprès de moi et il me conduit. En écrivant ceci, je n'ai pas pu m'empêcher de penser, pour ceux qui connaissent, au Seigneur des Anneaux. C'est mon film, mon livre culte. Et à Frodon. Frodon qui ploie sous le poids de l'anneau, comme un symbole du péché, cet anneau, et qui est sans force, au cœur de la vallée du Mordor, là où ne règne que mal et désolation. Je trouve d'ailleurs que c'est une représentation très pertinente de la vallée de l'ombre de la mort, ce Mordor. Et puis, je revois Sam Gamgee, son fidèle ami sur la photo, qui est là, à ses côtés, et qui, souffrant avec lui, le conduit et l'encourage sans cesse, inlassablement, encore et encore, et qui finira même par porter Frodon quand celui-ci n'aura même plus assez de force pour avancer. Vous voyez, c'est une belle image de cet amour indéfectible de Dieu qui demeure, bien que n'étant pas en lui-même atteint par ce fardeau qu'est le péché ou qu'est l'anneau pour Frodon. Dieu nous conduit comme un berger conduit sa brebis. Et puis, deuxième action, au cœur de la sombre vallée, le tendre berger vient également protéger sa brebis. Alors, nous ne nous en rendons certainement pas toujours compte de la protection de Dieu. nous n'en mesurons sans doute pas toujours le comment ou la portée. Mais c'est une réalité. Dieu nous protège. Il nous protège tout simplement car pour lui, notre valeur est plus grande que tout le reste. Et je vous lis à ce sujet un texte du prophète Ésaïe. C'est un passage que je trouve vraiment magnifique et qui est à prendre pour nous, même au cœur de l'épreuve, surtout au cœur de l'épreuve. D'ailleurs, il a été adressé ce texte à Israël quand le peuple passait par l'épreuve et par des chemins bien arides au temps de l'exil. « Maintenant, l'Éternel qui t'a créé te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime. » Dieu nous protège. Dieu nous conduit et nous protège. Aussi qu'il nous fasse la grâce de saisir cette réalité et de nous en imprégner, même et surtout au cœur des vallées obscures. Courage, disait Jésus dans l'évangile de Jean. Courage quand nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort. Moi, j'ai vaincu le monde, disait-il, et donc aussi cette vallée. J'en arrive au troisième et dernier point. Après nous avoir dit qu'il veut prendre soin de nous et nous offrir le vrai repos, qu'il nous accompagne en tout temps, notamment dans l'épreuve, le divin berger, par la plume de David, vient maintenant nous promettre les plus grands bienfaits. « Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. » Une table devant l'ennemi qui vient montrer la victoire de la brebis face au mal et à la vallée de la mort. Une tête parfumée avec l'onction d'huile, symbole de rafraîchissement, de joie, de bénédiction divine. Et puis cette coupe qui déborde. Tout dans ces mots vient traduire la surabondance d'amour et de bénédiction de Dieu à notre égard, du berger à l'égard de sa brebis. Et l'image est étonnante. Et je dirais même qu'elle va ici un peu au-delà de notre imagination. Car autant voir un berger s'occuper tendrement de ses brebis, autant le voir les guider et les protéger étaient des actions dignes du plus extraordinaire des bergers. Autant ici, il me semble qu'on franchit encore un palier. Car ce berger, le voilà maintenant qu'il se met à traiter sa brebis, eh bien, comme une vraie princesse. Et l'image étonne, comme si ça ne suffisait pas. Mais non content d'abonder, l'amour de Dieu pour nous vient donc surabonder. Et c'est une réalité de toute la Bible, qui dépasse, une réalité qui dépasse bien sûr ce psaume 23. Et je vous lis juste deux textes là-dessus, l'un dans l'Ancien et l'autre dans le Nouveau Testament. Éphésiens 3 d'abord. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Une surabondance d'amour et de bénédiction. Et dans le livre du prophète Malachie, alors que Dieu supplie son peuple rebelle de revenir vers lui, il promet aussi « Mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, alors vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. » Oui, Dieu veut nous combler de ses plus grands bienfaits. Dieu veut que nos coupes et nos cœurs débordent de ses bénédictions. Dieu veut nous faire manger en face de nos ennemis, en face de notre ennemi, le diable. Une image de triomphe, une image de victoire. Mais pourtant, c'est vrai, on n'a pas toujours la sensation de ce triomphe. Nos vies ne semblent pas toujours déborder de cette victoire promise. On le sait, le mal n'est pas encore vaincu, ni dans le monde, ni dans nos cœurs. Et c'est pour ça que ces paroles renvoient sans doute d'abord au futur, au temps de notre résurrection et de cette présence infinie aux côtés de Dieu, la source de toute bénédiction. Cette image renvoie sans doute aux noces de l'agneau, ce festin, cette table dressée en face aux yeux de notre ennemi. Oui, c'est vrai, le plein accomplissement est encore à venir. Mais malgré cela, je crois que ces paroles sont quand même aussi pour nous dès aujourd'hui. Car après tout, le cœur de notre victoire n'est-il pas déjà acté ? À la croix, encore une fois. Là où le berger est mort pour sa brebis, là où notre être a reçu l'onction du Saint-Esprit, là où notre coupe a débordé de pardon, de grâce et de nouvelle vie. Oui, nous sommes dès à présent comblés des plus grands bienfaits, parce que notre divin berger est mort pour nous, et elle est là, la vraie surabondance. L'apôtre Jean nous rapporte ces paroles prononcées par Jésus lui-même peu de temps avant sa mort, ces paroles bien connues aussi. « Je suis le bon berger, » dit Jésus. « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup, et il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. Jésus donne sa vie pour nous. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Aussi fou que cela puisse paraître. Et c'est fou, si on garde la comparaison. C'est fou d'offrir sa propre vie pour un simple animal. C'est une aberration, dirions-nous. La vie d'un homme a quand même bien plus de valeur que celle d'une bête, n'est-ce pas ? Mais je suis convaincu que l'aberration est encore plus grande dans la réalité de ce que cette image représente. Car soyons-en sûrs, la vie de Dieu a infiniment plus de valeur que la nôtre. La vie du Fils unique de Dieu, en qui, par qui et pour qui tout a été créé, est infiniment plus importante que ma vie. Et pourtant, ce Fils est mort pour moi, ce berger meurt pour ses brebis. Un amour qui abonde, avons-nous dit. Un amour qui surabonde et qui nous dépasse. Mais un amour qui est offert et qui est à disposition aujourd'hui. Quelle histoire, n'est-ce pas ? Quelle histoire que ce berger et ses brebis. Bon, c'est une histoire qui, disons-le, bouscule quand même un petit peu notre ego quand on est comparé à une simple et frêle brebis parmi tant d'autres. C'est une histoire, en tout cas, qui met bien en valeur notre faiblesse et nos limites. Mais c'est surtout une histoire qui nous parle du berger, ce tendre et doux berger, ce divin bon berger, sans faiblesse et sans limite. Et c'est en cela, bien sûr, que cette histoire trouve toute sa beauté. Je termine en vous citant juste ce commentaire de Martin Luther, encore lui, sur le psaume 23. Ça nous servira de conclusion. D'autres noms de Dieu, dit-il, tels que Seigneur, Roi, Créateur, inspire toujours une sorte de crainte. Il n'en est pas de même du mot de berger, qu'il suffit d'entendre pour éprouver confiance, consolation, sécurité. Mais pour bien comprendre cette image, il faut observer ce qu'est une brebis. Elle ne vit que grâce à la protection et à la sollicitude de son berger. Dès qu'il lui manque, elle est entourée de dangers et menacée de périr. Elle n'est qu'un pauvre petit animal, dépourvu d'armes pour se défendre et d'intelligence pour retrouver sa voie. Il est une chose, pourtant, qu'elle sait faire. Se tenir près de son berger et compter sur sa force et sa fidélité. Tant qu'il est près d'elle, elle le suit sans ne s'inquiéter de rien et sans redouter personne. Elle reste paisible et joyeuse car il ne lui manque rien. Il est une chose qu'une brebis sait faire, se tenir près de son berger et compter sur sa force et sur sa fidélité. Par sa grâce et pour sa gloire. Amen.